Ça, c'est pas des propos qui vont être au compte rendu. Bonjour à tous. Certains d'entre vous m'ont précisé qu'ils avaient des agapes ce soir après le conseil municipal, donc on va essayer. Alors, c'est Yann, mais moi aussi, donc Yann, il n'y a pas de souci. J'ai prévu un mojito aussi à 20h30. Donc on va demander exceptionnellement à Monsieur Lejean d'être synthétique.
Justement, rien que vous embêtez.
C'est toujours difficile quand on a le conseil municipal entre nous et le week-end. Donc on va partir un petit peu plus tôt que d'habitude. Je vous prie d'excuser donc notre cher député Jimmy Parrain qui s'est retrouvé coincé dans les bouchons et qui aurait dû être présent ici à 18h pour nous faire une petite présentation de ses activités, également de pouvoir échanger avec lui. C'est partie remise. Apparemment, la sortie de Nantes le vendredi soir est un peu compliquée. Voilà. Donc je vais commencer par l'appel. Monsieur Tom Laborde, monsieur Yann Guimard, monsieur Pierre-Léon Luneau, Madame Janine Le Golvan, Monsieur Charles Bietri, Madame Juliette Cordès, Monsieur Philippe Le Guénec et Monsieur Kergosien sont en répétition au Bagad. Avec ceux qui sont en vacances, ça nous fait donc deux absents. Il a donné un pouvoir à Monsieur Jean-Luc Servet, Madame Françoise Le Pennec, Monsieur Christophe Richard, Madame Morgane Petit a donné un pouvoir à Madame Nadine Rouet, Monsieur Jean-Paul Pergosien, qui joue de la cornemuse et a donné un pouvoir à M. Gérard Marc-Albert. Madame Christine Desjardins va arriver, me dit-on. Monsieur Olivier Buquin a donné un pouvoir à Olivier Lepic. Madame Marie-Pierre Gasser, Monsieur Jean-Luc Servet, Madame Christine Lamandé, Monsieur Michel Durand, Madame Catherine Isoard, Monsieur Loïc Coudois, Madame Catherine Alain, Monsieur Gérard Marc-Albert. Il est rentré de vacances. Madame Sylvie Robineau, elle est en vacances et elle a donné pouvoir à Madame Christine Desjardins. Monsieur Pascal Lejean n'est pas en vacances. Malheureusement, ils sont certains. Nadine Rouet.
Là, tu cherches, tu vas le trouver.
Non, j'aurais pu dire Pascal Le Synthétique Lejean. Non, j'ai dit Pascal Lejean. Nadine Rouet. Toujours présente. Monsieur Paul Chappelle a donné un pouvoir à Monsieur Pascal Lejean. Madame Katia Scoulot, nous l'avons entendu, elle est présente. Et je suis présent également. Nous avons donc quorum pour délibérer. Je crois que Tom est toujours le plus jeune, donc il va être, s'il accepte, secrétaire de séance. Merci Tom. On a modifié un petit peu l'agenda puisqu'on a rajouté, vous savez que c'est une période un petit peu compliquée, notamment avec ACTA qui nous a demandé de désigner un certain nombre de membres. Donc vous avez trouvé, vous avez reçu au cours de la semaine une note de synthèse complémentaire avec quatre points à l'ordre du jour que si vous l'acceptez, nous rajoutons à l'agenda de ce conseil municipal. Pas d'objection ? Je vous remercie. On attaque immédiatement par le point numéro 2, puisque l'approbation du procès verbal de la séance du 6 juin n'est pas prête, ni du 26 juin. On le fera un petit peu plus tard. Et donc, on passe directement au point numéro 2, qui est le compte rendu des décisions du maire. Simplement 5 décisions. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions ? Madame Le Golvan.
Oui, concernant donc le point 47, vous dites donc compte tenu du service rendu aux habitants de Carnac, on pouvait se poser la question si c'est un service rendu à la population, est-ce que ça a été envisagé justement que ce soit pérenne
C'est une première expérience. Hein. Déjà, je pense qu'il va falloir que l'opérateur confirme la rentabilité de l'opération. Mais si d'aventure, oui, effectivement, parce que je pense que tout le monde peut l'utiliser. Donc, Yann me le fait remarquer, on va tous au restaurant carnacois ou touriste le soir. On a aussi des enfants. Donc oui, ce serait un service. Après, pas sous ces conditions-là, parce que dans une yourte l'hiver au jardin de Césarine, je pense que ce serait pas possible. Mais en tout cas, c'est un premier test qui pourrait se révéler effectivement intéressant, parce que peut-être uniquement le week-end hein, d'ailleurs, mais parce que je pense qu'en semaine, au mois de février, je pense pas qu'il y ait beaucoup de carnacois qui sortent au restaurant et qui éventuellement déposeraient leurs enfants. Mais c'est une première expérience qui pourrait être prolongée sous d'autres modalités. Après, ce sera à lui de décider en fonction de la saison qui va faire.
D'accord. Deuxième chose, il y a des conditions donc pour les nouveaux, les nouvelles conventions en tout cas qu'on signe. Pour le Carnac Tuk Tuk, c'est pareil, on fait 50% en 2021, 2022 ou non ? Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas...
Non, je vous ai répondu au dernier conseil municipal, elle m'a demandé combien que ça coûtait. Sur la yourte, pour pouvoir qu'il puisse investir dans ce qu'il a besoin dans sa yourte et ainsi de suite, on a fait une convention de 5 ans. Et donc, on a étagé le dispositif financier sur les 5 ans. Pour le Kernak Tuk Tuk, non. Il bénéficie effectivement de l'aide Covid qui a été mise en place pour cette année, c'est tout.
Pas d'autres questions sur les décisions du maire ? Non. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 3, la longue série de M. Lejean. Et on commence par la constitution de la commission communale des impôts directs.
Alors, à la demande du trésorier, donc c'est une commission qui se réunit une fois par an. On a repris les mêmes personnes qui étaient liées à la commission. C'est 8 représentants avec 8 suppléants multipliés par 2. Donc, c'est un peu lourd. Cette commission, elle a tout simplement pour but de valider. Donc, on est composé de Sylvie Debaille, moi-même, mais Michel Durand au niveau de la mairie, et effectivement des citoyens carnacois qui connaissent bien le territoire. Et donc il y a 8 titulaires, 8 suppléants, et tout ça en doublon. On se réunit une fois par an et on regarde tout ce qui a été déposé en permis de construire, et tout simplement pour vérifier si ça correspond derrière à ce qui a été déclaré. Voilà. Et donc c'était la demande du trésorier. Puisqu'il fallait remettre à jour.
Tu cites les noms ou pas ?
Alors, je peux citer les noms. Hein. Il y a
c'est
M. Durand.
Que la dernière commission.
Oui, alors les petits changements qu'il y a dans la commission par rapport aux 6 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on intègre ceux qui représentent une taxe d'habitation, une taxe foncière et aussi le CFE, qui n'était pas le cas. Hein. Je rappelle, c'est la taxe pour les entreprises qui a remplacé la taxe professionnelle. Donc, derrière, il faut trouver une égalité entre l'ensemble des représentants de ces taxes-là. Donc, il y a M. Durand, il y a Mme Belz, Monsieur Kergosien, Monsieur Doumergue, Madame Le Gloec, Madame Vienne, Monsieur Guimard, Madame Lessard. Voilà, puisqu'il fallait un équilibre entre la CFE et la TH et la TF. Les suppléants, Madame Robineau, Monsieur le Diraison, Monsieur Richard, Madame Richard, pardon, Monsieur Christian, Monsieur Le Guenec, Madame Desjardins, Monsieur Stéphan et Monsieur Le Rouzic. Et dans les doublon, M. Bernard, suppléant M. le Chapelain, M. Persson, suppléant le Pévidic, M. Audic, suppléant le Bihan, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas entre les messieurs et les dames, M. Descotis, M. Sonic, Mme Ezano, si je ne dis pas de bêtises, M. Vincent, Céfno, Mme Guézello, Mme Cordès, Mme Ezano, et Mme Rouet et M. Le Marec. Alors, il faut savoir, c'est une réunion par an. Les doublons, on les a jamais appelés. Et on a dû appeler, je dirais, la moitié des suppléants sur le mandat de 6 ans.
Au passage, je remercie, parce que c'est du bénévolat, hein, je remercie les gens qui ont été volontaires. Est-ce qu'il y a des questions sur cette commission ?
Est-ce que vous avez cité le nom de Guimard ? Est-ce que ça vous correspond à moi ?
Oui, ça te correspond à toi, Yann. Alors, je t'ai pas dit, oui,
je reconnais. Je suis pas au courant. Et donc,
je reconnais.
Sur quel critère vous...
Sur le problème de la CFE.
D'accord.
J'avais besoin des gens, si tu veux, sur la zone de Montauban. Donc, étant élu au conseil municipal, d'accord, il me paraissait logique de te solliciter. Enfin,
merci,
je t'ai pas
beaucoup
sollicité, de te nommer et maintenant de te le solliciter. Voilà.
Alors, ça ne me dérange pas, j'accepte. Éventuellement, passez-moi...
Oui, non, mais c'est moi. Là, si j'étais... Normalement, on pensait pouvoir la mettre en place au mois de septembre. Le seul problème, c'est qu'on a été imposé par le trésorier. Donc, on a repris les anciens noms, sauf sur la problématique CFE, où il a fallu que je retrouve des nouveaux noms. Madame Cordès, c'est la même problématique.
Tu étais informé, toi, Juliette ?
Voilà, je vais être honnête. Voilà.
Donc, même de l'autre côté, il savait pas.
Non. Donc, tu es logé à la même enseigne. Et c'est vrai qu'on a pris d'abord, une fois, j'ai voulu chercher les gens qui étaient élus et qui connaissent le territoire pour effectivement trouver cet équilibre. Mais à coup le pas.
Parfait. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a...
On pourra avoir la liste aussi ?
Ah, mais vous l'aurez,
sera dans
le compte rendu. Hein.
D'accord, forcément. Ça marche.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 4, bilan annuel des autorisations de programme et paiement, les fameuses APCP.
Alors, comme vous savez, on a voté 5 APCP, donc il y a des autorisations de programme avec des montants qui sont faits sur chaque année. Donc, ce qui n'a pas été utilisé dans l'année, on le reporte sur l'année d'après. Donc, ce qui n'avait pas été utilisé en 2019, on le reporte en 2020. Ce sont exactement les mêmes montants globaux.
C'est tout, là?
Oui. Bah, tu as dit de faire court, hein. Je fais court.
Bon. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Le Golvin?
Oui. Concernant la salle multifonction, donc il y avait un projet de salle multifonction au stade, près du stade en tout cas. Là, je vois que pour 2020, on prévoit une dépense en tout cas de 20 000 euros. Qu'en est-il de ce projet? Qu'est-ce qui...
Les 20 000 euros, c'est pour l'étude. C'est pour ça qu'on les a remis, puisque l'étude a pris du retard par rapport à ce projet-là, suite à différentes choses. Donc c'est ce qui a été remis en 2020 pour continuer effectivement cette APCP.
Donc si vous parlez d'études, c'est que, parce qu'au départ c'était quand même pas mal ficelé, c'était des préfabriqués qui coûtaient 350 000 euros, donc votre projet a évolué.
Il sera amené à évoluer, oui, tout à fait.
Ouais, tout à fait. Pour que ce soit par rapport à la demande de différentes associations, pour mieux correspondre.
D'accord, merci.
Juste, puisque tu as cité le stade, moi je fais partie du CFC, du Carling Football Club, et je fais partie du bureau. Et il y a un projet, semble-t-il, que vous récupériez un terrain pour mettre le Lidl dessus.
Alors,
qu'est-ce que c'est?
En fait, on sera amené à en discuter, hein, parce qu'on a reçu le président du club. On a eu une demande un peu iconoclaste. Et effectivement, on a souhaité, évidemment, demander l'avis au club. Donc on attend le retour du club avant de pouvoir évoquer un éventuel projet de rénovation de l'ensemble du stade. Mais encore une fois, il faut attendre que le club soit d'accord ou pas.
Alors, en fait, le club n'a pas grand-chose à dire, puisque le terrain vous appartient. C'est vous qui allez décider.
Bah si, justement. Si le club dit non, on ne le fera pas. Alors, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions sur les APCP? Je vous remercie. Unanimité. Toujours une APCP, mais cette fois-ci, celle du boulevard de la plage, le rapport numéro 5, monsieur.
Tout à fait. C'est une modification de l'APCP numéro 4 qui correspond au boulevard de la plage. Donc, on vous l'a expliqué il y a maintenant 15 jours sur la problématique qu'on avait avec le trésorier par rapport aux avances qui ont été faites aux entreprises. On a fait une demande, les entreprises ont fait une demande d'avance qui était à la hauteur de 250 000 euros. Aujourd'hui, on ne peut pas les déduire des factures, donc on les a en entrée et en sortie. Et donc ça veut dire que l'APCP augmente automatiquement de 250 000 euros. Et à côté, on a une recette. Et à côté de ça, il y a aussi les révisions de prix des indices. Quand on signe un marché, dedans, dans le marché-là, il y a une révision de prix qui est possible avec l'indice. Soit il rentre effectivement dans les APCP, ce qui a été le cas dans les autres. Dans celle-ci, effectivement, vu que le projet a été sur une durée assez longue, il y a une révision d'indice qui a été faite à la hauteur exactement pour l'instant de à peu près 75 000 euros. Et nous, on a souhaité afficher 100 000 euros pour avoir une marge. Donc, on vous demande d'augmenter l'APCP de 350 000 euros, 250 000 pour réguler les avances et 100 000 euros pour la modification des indices de prix par rapport au marché qui a été passé.
Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Laborde?
Oui, donc l'augmentation de 350 000 euros, ça fait un pourcentage de combien environ sur le marché?
Alors, ce n'est pas vraiment une augmentation, je répète, hein, ce n'est pas une augmentation de 350 000 euros, puisqu'il y a 250 000 euros qui sont en avance, qu'on ne peut pas enlever de la PCP, qui vont venir en recette, c'est-à-dire qu'on va être remboursé par l'entreprise des 250 000 euros qu'on a avancés, mais eux continuent à facturer les 250 000 euros. Donc c'est pas un moins un plus, donc je suis obligé de rajouter dans mon APCP 250 000 euros, même si dans le budget, c'est égal à zéro.
Donc on aura
potentiellement
une modification pour retirer ces 250 000 euros dans un futur conseil municipal ?
Non, puisque elles ne rentrent pas dans les mêmes cases. C'est une recette, donc ça ne rentre pas dans une APCP. Une APCP n'a pas de recette.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il y a une dépense supplémentaire de 250 000 euros, mais on va avoir une recette supplémentaire de 250 000 euros qui s'annule. Le seul problème, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre des APCP, puisque la recette va venir effectivement en remboursement et pas dans le même compte. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire passer comme ça. C'est ce qu'a expliqué le trésorier.
La comptabilité publique.
Oui, la complexité de la comptabilité publique, puisque pour nous, au départ, il aurait été plus simple que l'avance qui a été faite soit déduite des factures à venir. Or, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas comme ça dans la comptabilité publique. C'est pour ça que j'avais demandé au trésorier de l'expliquer l'autre jour.
On peut passer au vote sur ce rapport numéro 5. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 6, l'affectation du résultat 2019, monsieur Lejean.
Toujours. Alors, on va le voir après dans le PowerPoint, mais comme c'est à part. Donc, vous avez vu au dernier conseil le résultat de l'exercice 2019, qui était de 3 662 582,46 €. Donc, on vous propose une affectation de 1 995 000 au compte au budget de fonctionnement et d'1 667 582,46 € à l'investissement. Avez-vous des questions ?
Ça, c'est pour le budget principal et il y a aussi le budget annexe.
Et il y a le budget annexe du musée, qui lui, il n'y avait pas de résultat, il y avait un déficit, donc on reporte le déficit au niveau de la section investissement qui sera comblée cette année.
Pas de questions sur cette affectation de résultat ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Il y a des abstentions. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, souscription d'un emprunt dont on a déjà parlé lors du
dernier du DOB. On vous a expliqué que suite aux différents événements, il nous a paru intéressant d'envisager d'emprunter 1,6 million qui serait fléché sur le restaurant scolaire. Le but est aujourd'hui à chaque fois qu'il y a un emprunt, qu'on le flèche sur un des investissements, tout simplement en cas de transfert de compétences pour qu'on puisse transférer la charge et les recettes. Nous avons sollicité 3 banques. Il y a eu 2 réponses. Donc les 3 banques, c'est la Banque des Territoires, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, les banques locales. Nous avons eu des réponses du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel qui étaient relativement très proches, le Crédit Agricole étant à un taux de 0,88 sur 20 ans, que le Crédit Mutuel étant à un taux de 0,90 sur derrière toujours 20 ans.
Fixe.
Fixe, hein. On est parti sur des emprunts fixes classiques, voilà. Pas été chercher de l'Euribor ou des choses un peu plus compliquées. Donc je vous propose d'effectivement de pouvoir solliciter le Crédit Agricole pour cet emprunt.
Oui, j'avais une question. Du coup, on avait vu dans le DOB qu'il n'y avait pas énormément de nouveaux investissements. On a un excédent de 3 662 000 de fonctionnement. Donc, où est la nécessité de faire un prêt ?
D'accord. Dans le DOB, vous n'avez pas vu beaucoup d'investissements. Vous avez vu combien d'investissements ?
De nouveaux investissements.
Vous avez vu combien d'investissements ?
Alors, on avait le boulevard de la plage, entre autres. Les APCP qui étaient pour 2 899 000 euros. Mais sur les autres investissements...
Il y a 7 millions d'investissements pour 2020. 4 millions dans les anciennes APCP.
Oui,
d'accord. Donc. Le but, c'est ce que j'avais expliqué il y a 15 jours, c'est d'anticiper aussi notre besoin pour pouvoir réinvestir sur l'année 2021 et pas se retrouver coincé. C'est qu'une anticipation.
Après, ça nous paraît judicieux de faire un prêt sur des investissements qui sont à long terme, comme le boulevard de la plage, et surtout que les taux sont très bas en ce moment et a priori vont rester.
C'est un point de vue.
Il y a d'autres remarques sur ce rapport ? On peut passer au vote.
J'ai juste une question. On a vu
Madame Le Golban.
Oui, on a vu la même, enfin, en tout cas pour ma part, c'est là où j'ai un peu toujours du mal à comprendre, parce que quand on fait un prêt, il est affecté à quelque chose. Or, là, on sait que, par exemple, vous le fléchez pour la cantine scolaire. On avait eu la même chose pour l'office de tourisme quand on avait fait, il y avait les IRA. On avait emprunté pour moi pour les IRA et finalement, on l'avait fléché vers l'office de tourisme.
Non. Non.
Les 600 quelques millions.
Non, non. On a remboursé l'emprunt qui était effectivement structuré et on a eu un IRA et on a fait un autre emprunt pour l'office du tourisme sur l'office du tourisme de la plage et la rénovation de la plage et la rénovation du bourg pour 650 000 euros. Mais c'est deux choses complètement différentes.
Donc, en tout cas, moi j'avais retenu ça. Comment on peut flécher là les 1,6 million, c'est ça ma question. Comment on peut les flécher vers la cantine scolaire qui est grandement payée quoi, déjà ?
Ah, bah écoutez, c'est un mode de fonctionnement. Vous avez deux solutions. Je pense que vous êtes assez bien placé pour le savoir. il est quand même plus simple d'aller chercher un financement quand vous avez la capacité à faire l'investissement que d'aller chercher un investissement quand vous n'êtes pas sûr d'avoir la capacité à le faire. C'est pas, un point de vue.
C'est pas ma question, monsieur Lejean.
C'est ma réponse.
Mais ça, c'est un rattachement comptable. C'est très simple.
Bah, je sais pas. Non, enfin, j'ai du mal, moi, avec ça.
Mais je l'ai fait très souvent.
C'est pas la première fois qu'on le fait depuis que vous êtes conseiller municipal.
Oui, je l'avais retenu pour l'office de tourisme, en tout cas, oui. Donc voilà, c'était ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu.
Bah, parce qu'il n'y a pas de réponse à y apporter, en fait. C'est un rattachement comptable. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, on passe au budget principal, toujours monsieur Lejean.
Donc là, je vais vous présenter sur le PowerPoint. Hein. Donc on a vu les grandes lignes de notre budget primitif dans le DOB, vous donnez les grandes lignes de ce budget-là. Donc l'affectation du résultat, vous venez de le voter, donc vous l'avez vu, hein, je le répète, 3 663 000 euros d'excédent fléché pour 1 668 000 en investissement et 1 995 000 en fonctionnement. Derrière, sur l'affectation du musée, vous l'avez vu, donc zéro en fonctionnement, zéro antérieur, la clôture zéro et l'affectation, donc il n'y a pas d'excédent, donc il n'y a pas à affecter. On a vu aussi qu'en investissement, il y a un déficit, comme je vous l'ai dit.
Oh là là, c'est magnifique.
Non, monsieur, c'est Philippe, c'est pas moi.
Qui c'est qui a fait ça, là? Non, mais c'est splendide, hein, franchement. Avant, on s'emmerdait dans les budgets. Maintenant, franchement, ça devient presque ludique. Hein.
On retrouve ce que vous avez vu. Bah, monsieur Le Pic, c'est bon, hein, monsieur le maire?
Ah non, pas celui-là.
Donc ça, vous l'avez vu il y a 15 jours. Hein, toujours nos fondamentaux qui existent maintenant depuis l'année 2015, où qu'on vient répéter. Hein, je suis désolé, mais je vais être têtu, borné et imparfait breton pour répéter ces bases. Je répète, oui, mais j'ai pas de problème. Hein. On retrouve derrière un graphe qui va nous reprendre effectivement les excédents avec le déficit d'investissement suite effectivement aux investissements de 2019 et aux APCP. Le budget global avec les deux sections fonctionnement et investissement, donc 14 216 000 en fonctionnement pour 7 637 000 en investissement. Les dépenses dans la section fonctionnement, les principales dépenses, donc les charges à caractère général pour 2 679 000, les charges de personnel pour 4 241 000, je vous rappelle, c'est un budget primitif, c'est une prévision, on en a discuté il y a 15 jours par rapport au réel, voilà, c'est pour ça qu'on vous a remis le budget primitif de 2019, hein, puisque c'est aussi du primitif, et dans le DOB, vous avez le réel par rapport au primitif, là, c'est deux budgets primitifs. Pour montrer la construction, les atténuations de produits pour 2 462 avec une forte évolution, c'est tout simplement règle comptable demandée de la part du trésorier de changer l'imputation de la taxe de séjour pour l'office du tourisme, entre autres, qui fait qu'elle est remise au compte 014 et enlevée au compte 65. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les dépenses imprévues en cas d'imprévu, elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Les autres charges de gestion courante avec une forte diminution, mais je viens de vous l'expliquer. Les charges financières qui ne tiennent pas compte de le nouvel emprunt, puisqu'il n'était pas encore voté, donc on ne pouvait pas en tenir compte, on est bien d'accord, donc il y aura une décision modificative pour en tenir compte, mais qui n'impactera très peu, puisqu'on a un taux très bas, et qu'on sera sur une couverture maximum de 6 mois, si on le fait demain, mais qu'on sera plutôt sur 5 ou 4 mois. Les charges exceptionnelles pour 72 000 euros, les opérations d'ordre entre sections amortissement pour 850 000 euros, je répète, plus on investit, plus on amortit, surtout en matériel, donc on le retrouve là, et le virement à la section d'investissement que vous avez voté tout à l'heure, ce qui nous fait un budget en évolution d'1,08%. Sur les dépenses, c'est l'autre graphe qui vous présente sur les 3 dernières années, pour vous donner un petit comparatif. Sur les recettes de fonctionnement, donc des atténuations de charges pour 40 000 euros, des produits et services du domaine de vente de 190 en forte baisse due aux décisions que nous avons prises pour l'aide économique Covid-19, les impôts et taxes pour 10 millions 09, dedans il y a y compris les AC, dedans pas que les impôts locaux, il y a la DGF, les AC, différentes choses, dotation participation pour 1 071 000, Les autres produits de gestion courante pour 202 000. Les produits financiers, oui, un peu, alors on les a eus, hein, c'est pour ça qu'on les a inscrits. Hein. Et les produits exceptionnels pour 433 000 euros qui sont en forte évolution, puisque dans les 433 000 euros, excusez-moi, nous avons inclus la sortie du litige ADM à la hauteur de 350 000 euros. Voilà pourquoi ils reviennent dedans. C'est à cet endroit-là qu'on a demandé au trésorier où qu'on devait les imputer. Les opérations d'ordre entre sections, c'est ce qu'on appelle les travaux en régie, 169 000 par rapport au prévisionnel que nous avions, et l'excédent de fonctionnement reporté pour 1 995 000 euros. Ce qui nous fait un total de 14 216 000 euros. Le petit graphe qui vous reprend les trois dernières années. Donc, on revoit l'impact du Covid sur le casino, l'attaque de séjour, mais qu'on avait discuté effectivement déjà il y a la semaine dernière, et les taxes diverses. On va continuer, peut-être redescendre. Vous connaissez la DGF, vous en avez entendu parler, je vous en parle à chaque fois. La dotation globale de fonctionnement avec un point de référence en 2010 par rapport à 2020. Donc 2020, c'est moins 25 000 euros de DGF par rapport à 2019. Mais vous voyez l'écart depuis 10 ans. Vous allez retrouver ce petit graphe hein, autrement avec effectivement en rouge la participation au désendettement de l'État qui était à l'époque. On va revenir maintenant sur l'investissement. Donc les dépenses d'investissement, vous retrouvez dotation fonds divers de réserve 3 000 euros, remboursement capital des emprunts 649, pareil, hein, dedans il n'y a pas effectivement le nouvel emprunt. Il y a plus de remboursement de capital puisqu'on rembourse moins d'intérêts, puisqu'on arrive à la fin de nos emprunts, donc on rembourse plus de capital. Les subventions d'équipement versées 308, les immobilisations incorporelles 215, mobilisation corporelle 606, par rapport aux 4 314 000, quelle est la différence? C'est toujours le dossier EADM qui a été fléché à la hauteur de 3 4 000 dans les immobilisations corporelles. Les immobilisations en cours 6 942 000, 4 957 000, c'est essentiellement les APCP. Opérations d'ordre entre sections, c'est tout ce qui est les travaux en régie que vous avez vu de l'autre côté, vous les retrouvez de ce côté-ci, bien sûr. Un petit voilà camembert pour vous dire un petit peu où que c'est. Alors le camembert n'est peut-être pas assez détaillé, on pourrait l'améliorer. À chaque fois on se pose la question. Voirie, réseau, sécurité, aménagement urbain, mobilier matériel, bâtiment, terrain, jardin, cimetière. Alors on les a classifiés par rapport à ce que nous donne la M14. C'est pas ce qui est le plus simple, c'est comme ça. Les opérations financières et la communication études. Les recettes d'investissement, donc dotation fonds divers de réserve 1 million. Donc juste une petite explication pour pas que je vous dise quand même que des bêtises, ça changera un petit peu. La différence entre les 540 et les 1 million, c'est tout simplement le remboursement du FCTVA. Vous savez qu'on a la TVA sur investissement qui nous est reversée en N plus 1. Donc, plus vous investissez, plus vous avez de remboursement du ce qu'on appelle du FCTVA, ce qui fait l'écart. L'affectation de l'excédent, vous l'avez vu tout à l'heure. Les subventions d'investissement reçues, 449, c'est celles qui ont été notifiées. Emprunts et dettes assimilées, vous retrouvez 1,6 million. Il y a 2 000 qui traînent sur un emprunt qui était à la CAF, je ne sais plus exactement, où il y a 2 000 euros voilà, qui reviennent. Immobilisation en cours, 220 000 qui correspondent le 23 que je revienne dans ma tête. Eh ben, je vais peut-être avoir un trou de mémoire. Philippe va peut-être m'aider puisque
avance APCP,
pardon, j'ai dit des bêtises. On les retrouve là puisque pardon, on les a eu 30 000 qui étaient en 2019 et les 220 000 de 250 000 qui se retrouvent là. Ça, j'ai dit, j'ai un trou de mémoire, pas l'habitude de les avoir, et que vous les retrouvez là, mais dans l'opération qu'on a votée tout à l'heure, les 250, il faut passer la totalité. Les virements de prévision à la section de fonctionnement, donc 1 848, ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Les produits de cession immobilisation, il n'y en a pas de prévu. Les opérations d'ordre entre sections, toujours les amortissements. L'excédent d'investissement en reporté, il n'y en a pas cette année, ce qui nous fait donc 7 637 000 euros en termes de budget de recettes d'investissement. Vous allez retrouver l'autre graphe. Ça doit être sur l'autre que j'ai dû marquer. Là, vous les avez derrière les remboursements d'avance pour 220 000 euros. la dette. Par contre, dans la dette que nous avons inscrite en 2020, nous avons intégré les 1 600 000 euros dans la dette, qui l'amène en 2020 à 5 322 000 euros à fin 2020, un petit peu moins sans doute, puisqu'on a intégré 100% du capital, il y aura un peu de capital de remboursé. L'extinction de la dette, je vous rappelle, vous l'avez vu lors du DUB, donc qui va rechuter rapidement, puisqu'on va retrouver à partir de 2021 à peu près les chiffres de 2018 ou 2019. Le budget annexe, le vote du budget, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite là.
Après on passe au musée. Il y a des questions, des commentaires?
Juste une remarque, dans l'intitulé, on nous demande d'approuver le budget primitif 2020 du budget annexe du musée. Or là, c'est le budget principal.
Exact.
Et il y a la même chose sur le 9, tout simplement.
On en fera d'autres. Merci Yann. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose Madame Le Goldman.
Oui, vous avez évoqué EADM. Qu'en est-il du dossier, puisque visiblement vous avez...
Comme vous avez pu voir dans les journaux ces derniers temps, il y a eu des rapports. Et donc le président de EADM, qui est le président du conseil départemental, a souhaité se rapprocher de BSH pour faire reprendre l'ensemble des actifs EADM par BSH. Et donc, si vous voulez, nous sommes en cours de discussion sur un nouvel accord avec BSH pour relancer les produits, les programmes, pardon, pas les produits, les programmes Bellevue et Belen.
Il y aura un suivi, une continuité de ce qui a été fait.
Tout à fait.
D'accord.
C'est bien. Et ce coup-ci, avec, on espère, un cadre précis. C'était un peu la négociation qui était un peu longue. Pour que ça aboutisse réellement.
D'accord.
Et comme on le souhaite.
Merci.
Parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On passe au vote du budget primitif du musée, monsieur Lejean.
Tout à fait. Donc, vous avez la section fonctionnement. On va retrouver la même règle. Donc, les dépenses en section fonctionnement. Vous avez des charges à caractère général pour 150 000 euros, des charges de personnel 493 000 euros, des autres charges de gestion courante pour 4 000 euros, des charges exceptionnelles pour 1 euro, des opérations d'ordre entre sections pour 27 000 euros et un virement de la section investissement 57 000 euros. L'évolution des charges de personnel sont dues tout simplement qu'il y a en cours une évolution au niveau du personnel du musée. Je laisserai peut-être monsieur le maire en dire un mot s'il souhaite. Qui fait qu'on a provisionné tout simplement un coup. Non, bon.
Emmanuel, la directrice, a souhaité quitter la direction du musée, et donc nous allons être amenés à recruter son ou sa successeur dans les mois qui viennent.
Et c'est ce qui donne l'explication d'augmentation ou pas?
Il y en a deux. Emmanuel et comment, monsieur Messlin?
Ah oui, il y a eu Jacques Mézin, qui était délégué CFDT au niveau départemental, mais toujours rattaché au truc, a choisi d'arrêter son engagement syndical. Et donc, il est revenu dans les effectifs du musée il y a quelques mois. Voilà, mois d'avril.
Enfin, de toute façon, son salaire était aussi dans... Enfin, c'est la commune qui payait son salaire. Oui, donc ça ne change rien. Ma question est, pourquoi on passe de 427 à 493, puisque finalement... Ça devrait
peut-être
être
pas remboursé sur la même ligne, si?
Non, on n'est pas remboursé sur la même ligne.
Oui, c'est pour ça.
Oui, mais enfin, c'est le chapitre 12, donc quelque part, ce que vous me répondez, c'est bien, mais ça ne justifie pas.
Si, bah, allez-y, Philippe, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc c'est-à-dire que ce qu'on a voté la dernière fois, maintenant, peut être utilisé et on peut...
Tout à fait.
D'accord.
À fait.
Pardon? D'accord. Mais on a...
Et l'indemnité n'est pas volontaire.
D'accord.
Et en fait, l'État a annulé, entre guillemets, ce qu'il avait créé quelques temps plus tôt pour mettre la copie du privé avec la rupture conventionnelle.
D'accord.
En fait, ce dispositif est ouvert à tout agent qui souhaite soit abandonner la fonction publique.
D'accord. Mais dans ce cadre-là, c'est Mme Vigier qui bénéficiait d'une rupture conventionnelle.
Tout
d'où,
à fait.
D'où
la provision.
La provision.
D'où la provision.
D'accord.
Tout à fait.
Merci.
Voilà.
Sur les recettes, on ne va pas continuer. Donc, atténuation de charges pour 5 000 euros, des produits des services pour 227 000 euros, une dotation et participation pour 20 000 euros, les autres produits de gestion courante pour 476 000 euros, et des opérations d'ordre entre sections pour 4 000 euros, ce qui nous fait un budget à 732 000 euros. Sur les produits et services, effectivement, le budget a été construit avant le Covid. On s'est posé la question de le modifier. Derrière, aujourd'hui, on s'aperçoit que sur la première partie de juillet, on est juin, et sur la première partie de juillet, on est plutôt dans les clous. Donc on a préféré le laisser et de faire plutôt une décision modificative au mois de septembre, quand on aura les chiffres réels, pour éviter d'en faire plusieurs. Voilà. Sur la section investissement du musée, les immobilisations incorporelles pour 40 000 euros, les immobilisations corporelles pour 30 000 euros, les immobilisations en cours pour 13 000, les opérations d'ordre entre sections pour 4 000 et le déficit d'investissement reporté pour 62 000, ce qui nous fait 149 000 euros. Et en termes de recettes, on va retrouver les dotations fonds divers de réserve 8 000 euros, l'affectation excédent de fonctionnement, il n'y en a pas, la subvention d'investissement reçue 57 000 euros, l'emprunt et dette assimilée 0, les virements en section de fonctionnement 57 000 euros et les opérations d'ordre entre sections pour 27 000 euros, ce qui nous fait 149 000 euros.
Parfait. Avant de passer au vote, juste à titre d'information, on a eu cet après-midi la première réunion de lancement du projet de rénovation du musée avec le sous-préfet qui nous a fait l'honneur de venir avec la représentante de la DRAC. Donc voilà, au sein de la commission culture, vous serez amené dans les mois qui viennent à travailler sur ce projet qui figure au programme du mandat, un projet évidemment ambitieux. On a probablement les plus belles collections de France et peut-être du monde pour ce qui concerne le néolithique, mais dans un musée qui a bien vieilli et dont la muséographie mériterait d'être rénovée. Donc l'objectif, c'est de relancer ce projet assez rapidement, sachant que il y a une belle fenêtre de tir, nous dit le préfet et la région, pour figurer au plan État-Région et donc être l'un des trois musées prioritaires pour une rénovation au cours des années qui viennent. Donc encore une fois, au sein de la commission culture, vous serez amené à travailler sur ce projet dans les années qui viennent.
Oui, on va passer au vote.
Moyenne, ouais. Est-ce qu'il y a des votes contre ce budget primitif du musée 2020? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On part au rapport numéro 10. Il s'agit du conseil de la composition du conseil d'administration du CCS. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, le conseil d'administration du CCS est donc composé de 10 membres. On a élu les 5 membres élus issus du conseil municipal lors du dernier conseil, il me semble. Et donc, suite à un appel à candidature qui a été lancé le 10 juin, ont été nommés par arrêté du maire les personnalités suivantes. Madame Nicole Legorgneux, donc, qui est élue en qualité de représentante de l'Union départementale des associations familiales du Morbihan. Madame Marie-Yvonne Le Guludec, en qualité de représentante de l'Amicale des retraités de Carnac. Madame Marie-Françoise Grenier, en qualité de représentante de l'Antenne du Secours catholique de Carnac. Madame Nathalie Bourret, en qualité de représentante de la Mutualité sociale agricole du Morbihan. Et enfin, Madame Annie Clonet, en qualité de représentante des personnes... Arrêtez de me distraire, à ma gauche, des personnes participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social sur la commune. Donc, il vous est proposé de prendre acte de ces nominations. Pour ce qui concerne le bilan d'activité, pas de vote, hein, donc, pour ce qui concerne le bilan d'activité, je pense que vous en avez tous pris connaissance. Je vous incite vraiment à prendre connaissance de ce rapport. D'abord parce qu'il est très bien fait par toute l'équipe du CCS et notamment sa directrice Sylvie Guillot, que il est toujours très intéressant de se rendre compte de ce que nous ne savons peut-être pas tous, mais à savoir, il y a vraiment sur une commune qui est pourtant à la réputation d'être plutôt riche, eh bien, il y a des gens qui sont en grande difficulté à Carnac, qui ont du mal à assumer et à boucler leur fin de mois, et que les équipes du CCAS et les administrateurs, je crois Tom qui fera partie du conseil d'administration, c'est une belle expérience, je pense. Ça peut être assez dur, parce qu'en fait, des fois, on se prononce sur des aides et on tombe devant des situations qui sont... voilà, si on ne les voyait pas au sein du conseil d'administration du CCS, on peut ne pas les voir dans la vie quotidienne. Et donc, je pense que c'est une très belle mission, en tout cas. Et je vous incite vraiment à lire ce bilan d'activité, si vous ne l'avez pas fait. On ne va pas le commenter là, mais c'est un travail qui dit beaucoup de choses sur les personnes les plus fragiles, non seulement de la commune, mais également sur l'ensemble des mesures et des dispositifs qui sont mis en œuvre pour essayer de rendre plus facile la vie des personnes, des foyers, et même effectivement des enfants les plus fragiles de la commune. Voilà, donc là aussi, pas de vote, hein, on prend simplement acte de la communication de ce rapport, sur lequel je vous incite vraiment à lire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des... En tout cas, lisez-le avec attention, c'est très intéressant. Voilà pour ce qui concerne le rapport 11. Le rapport 12 concerne le versement de la subvention 2020 au CCAS, hein, dont le budget primitif 2020 s'élève à 228 562 euros en fonctionnement et 26 329,74 euros en investissement. Et donc, comme chaque année, la commune verse une subvention de fonctionnement qui est aussi une subvention d'équilibre du budget du CCAS, hein, qui ne saurait pas boucler et équilibrer son budget sans cette subvention. Et donc, nous vous proposons de verser pour l'exercice 2020 une subvention de fonctionnement de 137 000 euros et puis une subvention pour le repas des aînés et les animations de 13 000 euros. Et donc, évidemment, ces crédits sont inscrits au budget 2020 sous les références que vous constatez ou découvrez sur ce bordereau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention, Madame Le Golvan?
Oui, concernant les 13 000 euros, est-ce que, peut-on savoir de quelles animations il s'agit? Qu'est-ce qui a été retenu pour 2020?
Alors, je suis incapable de vous le dire. Je pense que la grande partie de cette somme, c'est le repas des aînés, c'est clair. Je reviendrai vers vous avec. Enfin, je pense que Tom le saura lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, mais je pense qu'une très très grande partie, c'est le repas des aînés, parce qu'en termes d'animation, en période post-Covid, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire grand-chose. Est-ce qu'on pourra faire le repas des aînés? J'espère, mais à ce stade, je pense que c'est essentiellement le repas des aînés. Ouais. Ah bah il y a la semaine bleue, mais encore une fois, c'est des séances de cinéma, évidemment. Enfin, je pense que c'est les... Comme le conseil d'administration ne s'est pas réuni, je pense que c'est les mêmes animations que les années précédentes. Et encore une fois, pourrons-nous les tenir? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre cette subvention au CCAS? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On repasse la parole à Monsieur Lejean, cette fois-ci sur l'information sur la composition du comité de direction de l'Office du tourisme et ses représentants.
Voilà, donc là, c'est les représentants des socioprofessionnels. Hein. Je vous rappelle que c'est les socioprofessionnels qui font le tourisme et pas les élus. Donc, on a voté les élus il y a 15 jours, peut-être avant d'ailleurs. Et donc là, il y a eu une élection pour les socioprofessionnels. Il y avait un représentant des hôtels, un représentant des campings, un représentant des agences de location de meublés et des résidences de tourisme, un représentant des locations de vacances et chambres d'hôtes particulières, un représentant des cafés, restaurants et discothèques, un représentant des activités sportives et culturelles, un représentant de la thalassothérapie, un représentant du casino. Donc, il y a eu un vote qui a été fait. Donc, les résultats du vote, le représentant des hôtels, c'est Laetitia Cosnier, qui est l'hôtel de Landerose. Le représentant des campings, Denis Garcia, qui est le camping du Moussoir et le camping Le Lac. Représentant des agences de location et meublés et des résidences de touristes, Stéphanie De Noël, qui est l'agence des Druides. Représentant des locations de vacances et chambres d'hôtes particulières, Marie-Dominique Garcia, le Clos de Saint-Aubin. Représentant des cafés, restaurants et discothèques, Alexandru Caruso, restaurant La Calypso. Ouais, je n'ai pas l'accent. Ça, c'est sûr. Représentant des activités sportives.
Quelqu'un a l'accent roumain ici?
Alexandru.
Alexandro, ouais.
Une fois, faudra
bon, bah, tiens Catherine, tu veux continuer? Non, mais justement, il paraît que je parle de trop, je vais quand même donner un petit peu à tout le monde, hein. Alexandre Justhomme pour les activités sportives et culturelles, mobile board, représentant de la Thalasso Thérapie, Philippe Rio, qui est le directeur de la Thalasso, représentant du casino, Robert Plumier, qui est le directeur du casino Machine à Sous, pas supermarché, pour pas confondre, et nous avons coopté, je vous rappelle, qui sont cooptés aujourd'hui la présidente de l'UCC, la directrice de PDM et Hervé Génaud en tant que membre historique de l'Office du tourisme représentant l'ostriculture.
Parfait. Donc on aura au moins appris au cours de ce rapport que Mme Catherine Izoard parle couramment roumain, ce qui est très bien. Je la félicite. Ensuite, écoutez, là aussi, pas de vote. Donc il s'agit simplement... Oui, bien sûr.
Le choix dans chaque représentant se fait comment ?
C'est, c'est les professionnels qui votent.
Alors, les professionnels, par exemple, les restaurants, les campings se réunissent entre eux et font un vote.
Il y a un appel à candidature. Et une fois qu'il y a eu un appel à candidature, il y a effectivement, on demande à l'ensemble des adhérents de cette profession-là de voter.
Et qui fait l'appel de candidature ? L'Office de tourisme ?
Mais bien sûr.
Ok, merci.
Ok, on passe au rapport suivant. S'il y a
juste une question. Madame quand vous dites que coopter, donc il y a l'UCC, il y a autrement
Paysage UCC, de mégalithes. PDM,
paysage et régionaux.
Pardon, excusez-moi. Oui.
PDM. Paysage de mégalithes.
D'accord. Et ce sera qui du paysage de mégalithes qui sera
Ce sera la directrice.
La directrice.
D'accord. Donc ça veut dire qu'ils auront le droit d'assister à tous les.
Tout l'ensemble, tout à fait.
D'accord. Okay. Ils auront le droit de vote au enfin, pas, peut-être pas, mais.
Non. Pas droit de vote.
Alors, c'est ce que je regrette, parce que quand on lit justement le... je leur permets là, moi, les deux. Ah oui, c'est ici. Vous dites, au niveau de l'Office de tourisme, que donc on doit représenter les professions, les organismes et associations. Donc, c'est vrai qu'auparavant, on avait l'UCC était représentée.
Oui.
Donc, ça représentait quand même... C'est vrai que la profession toujours commerçante. On aurait pu avoir aussi quelqu'un du milieu associatif, puisque c'est noté dans les statuts. Et ce que je regrette, c'est que M. Justhomme donc, avait démissionné, vous vous souvenez, de l'Office de tourisme, remplacé par Madame...
Alors, il représentait le président du CC, il n'était pas à titre de sa profession.
Non, mais quand quelqu'un démissionne, président du CC... ou chef d'entreprise, pour moi, quelque part, il a démissionné parce que sans doute des responsabilités. Je veux dire, c'était tout à fait... Enfin, il n'y a pas de reproche dans ça. Mais il avait quand même démissionné. Et c'est vrai que je suis surprise qu'il revienne. Et du coup, ça prend un poste... Pardon ?
Il n'a pas démissionné,
il ne
s'est pas représenté.
Non, mais Mme Le c'est complètement différent. En fait, oui, il était représentant au titre de sa présidence à l'UCC. À partir du moment où il n'était plus président... Il est parti.
Ah non, non, il était... Non, non, il avait... Non. Il était parti pendant son
mandat. Bien sûr. Non.
Donc,
comme il était au titre de la présidence, il la perdait automatiquement, puisque c'était le ou la présidente.
Yann, t'en fais partie, Yann. Tu peux répondre à la question.
Sur l'UCC ?
Non, sur Alexandre Justhomme.
Par rapport à l'Office du tourisme, moi, j'étais pas dans les...
Non, mais par rapport à l'UCC, il a bien fini son mandat et s'est pas représenté.
Absolument. Et Madame Allemagne.
Et je rappelle qu'au niveau des élus, Yann Guimard vous représente aujourd'hui au niveau de l'Office du tourisme, on est bien d'accord, et représente indirectement aussi l'UCC. Donc il y a un certain équilibre. Donc on essaye d'avoir le maximum de personnes qui soient représentatives. Et effectivement, c'est pas simple derrière, puisqu'on est limité en nombre.
Non, mais
le but, c'est d'être efficace.
Que vous ayez raison, par contre, c'est vrai que si on veut représenter la population, là, on voit que ce sont essentiellement des commerçants ou des chefs d'entreprise. Ce que je veux dire, comme c'est noté dans les statuts, de prendre des gens autres, comme, je sais pas, moi, on voit que l'associatif pourrait être représenté, on a tout à fait...
Mais dans les...
Oui, mais il n'y est plus, Mignonne. Il n'y est plus.
Non, mais...
Sans droit de vote.
Sportive et culturelle, vous avez le Yacht Club qui aurait pu être représenté. Oui. Après, effectivement, il y a eu un vote derrière. Ah, mais il y a eu un vote.
C'est
ouvert, on a sollicité.
Ça,
voilà.
C'est juste, c'est noté. Si, vous allez, c'est si.
Bon.
Ok, donc voilà, pas de vote. Je vous remercie donc, vous avez pris acte de ces nominations et suite à des élections, donc encore une fois. Et puis on va passer maintenant au rapport 14, monsieur Lejean, rapport d'activité 2019 de l'Office du tourisme.
Donc vous avez des petits documents qui vous ont été transmis, vous avez déjà vu, ça a été voté en CODIR de l'Office du tourisme, donc CODIR ancienne version. Aussi, je vous propose de prendre le point 14, 15, 16, 17, 18 à suivre et on votera. Les 5 points en même temps, puisque vous allez avoir un PowerPoint qui reprend synthétiquement l'ensemble des documents et du rapport d'activité de l'Office du tourisme que vous avez entre les mains et qui a été validé, je rappelle, au niveau du CODIR. Donc l'Office du tourisme... Pardon ?
Non, mais là, on a un degré d'exigence sur les PowerPoints.
Non, là, l'enchaînement n'était pas terrible, je trouve, par rapport à avant.
Donc, vous retrouvez ici la fréquentation des offices du tourisme sur la commune. Donc, ce soit l'office de la plage avec 78 100 visiteurs, le bourg 68 100 visiteurs qui est en baisse. Mais je vous rappelle qu'il y avait des travaux dans le bourg et que l'office du tourisme du bourg a été fermé. Et donc, notre point I qui se trouve normalement à la maison des mégalithes sur la période de juillet et août pour 5600 visiteurs qu'on ne retrouvera pas pour 2020 puisque suite au Covid, on a décidé effectivement de ne pas le renouveler, de le renouveler à partir de 2021. Ce qui nous fait un total de visiteurs de 151 800 visiteurs. Une billetterie qui représente 13 500 billets vendus pour 366 000 euros de chiffre d'affaires qui est stable et un total de nuitées d'1 418 000 nuitées marchandes. Donc il faut savoir qu'on est le premier secteur au niveau du Morbihan en termes de nuitées marchandes. Même si effectivement le nombre de nuitées évolue peu puisque l'ensemble des nuitées est réalisé par l'hôtellerie traditionnelle ou l'hôtellerie de plein air et qui aujourd'hui n'évolue pas, a plutôt tendance à diminuer en termes, pas de surface, mais de place, puisque soit on a une évolution de nos hôtels au niveau étoile ou de notre hôtellerie de plein air.
Juste Pascal, je comprends sur la brochure. On retrouve bien plage 78 100 plus 0,4%, mais Bourg sur la brochure c'est 86 500 moins 31%. Alors, on a bien le moins 31%, mais c'est 86 500 dans la brochure.
Je pense qu'il y a un couac dans la brochure qui ont été reprendre effectivement les chiffres de N-1. Où ils ont inversé effectivement sur l'impression, il y a eu une inversion. Sur la communication web, on voit une évolution qui est exponentielle, mais ce qui est un peu logique, hein, puisque aujourd'hui, en 2019, nous avons 655 931 sessions, donc 10% par rapport à 2018, et vous voyez bien que la courbe évolue énormément. Donc on a effectivement une dynamique sur la communication web et sur le numérique. Sur la communication des réseaux sociaux, Facebook 82 000 fans, 72 000 en 2018, Instagram 8 000 fans, 3 600 en 2018, donc pareil, une évolution, les communications print. Sur la communication, donc vous avez le rapport, hein, vous pouvez le lire, hein, donc tout ce qui a été fait hein, dans les objectifs principaux, donner de la visite à la destination, améliorer l'image de la station. Tout à l'heure, avant de démarrer le conseil hein, municipal, vous avez vu qu'il y a un petit film qui a tourné en boucle, qui représente, mais on discutera tout à l'heure sur 2020, qui est passé pour le mois de juin pour promouvoir la station. L'affichage en action, affichage urbain en Ile-de-France, flanc de bus à Lille, affichage métro, tram et tram à Lyon, campagne de communication nationale de 20 minutes, affichage urbain à Madrid, campagne digitale en Belgique et en Suisse, campagne cross-média en Allemagne. Ça, c'était pour 2019.
Avant le Covid.
Voilà. Donc les réseaux sociaux, 707 000 films vus complètement, hein, puisque je vous rappelle, on ne prend que le film qui est vu du début jusqu'à la fin. Donc c'est générer de la visibilité et de l'audience. Les salons touristiques, 3 salons touristiques hein, par l'intermédiaire de nos adhésions à Sensation Bretagne. Sensation Bretagne, c'est un groupe de stations balnéaires qui représente des stations comme Pérouse, comme Arzon, ou d'autres stations sur le littoral breton et qui est soutenu par la région. Et entre autres, qui fait place au mot. Sur les animations de 2019, la Zumba le lundi, l'expérience Zen le mardi, festival place au mot, je viens d'en parler, le mardi, l'expérience fitness, les concerts musique on the beach le mercredi, Carnac Lanta et Running in Carnac. En plus, bien sûr, tout ce que fait la commune, avec la participation de l'office de tourisme, que ce soit Skedanos, que ce soit le festival Terraquet, que ce soit le feu d'artifice et les différentes manifestations qu'il y a aussi avec les associations. Le compte administratif 2019, on va faire court, hein, fonctionnement 1 million, en dépenses 1 million 69 000 euros, en recettes 1 million 87 000 euros, en investissement 49 000 euros, en recettes 52 000 euros, j'arrondis, hein, ce qui nous fait un résultat d'exercice de 18 000 euros en fonctionnement et de 3 000 euros en investissement. On a un report de N-1 de 60 000 euros en fonctionnement, ce qui nous fait un total de 79 000 euros en fonctionnement. Et on avait un report négatif de 27 000 euros en investissement, ce qui nous fait un total négatif de 24 000 euros en investissement, donc les deux cumulés, un total positif de 55 192,29 euros. On continue. On va vous présenter maintenant le budget, le plan d'action et le budget 2020. Je rappelle que ce budget a été voté en CODIR de l'Office du tourisme au mois de décembre, qui a été bâti effectivement avant les problèmes de Covid. Là, pareil, nous aurons une décision modificative à faire au mois de septembre. On s'est posé la question si on pouvait le faire avant. C'était compliqué du fait des élections déjà et du retard. Et de toute façon, avant d'avoir toutes les données, puisqu'on en a parlé là, il y a 15 jours au niveau du DOB et avec la compensation de l'État, entre autres sur les taxes de séjour, qu'on verra peut-être un peu plus clair d'ici septembre, ce qui nous permettra de faire une modification du budget réaliste. Donc sur la billetterie, on espérait une progression. Les animations, on avait effectivement des animations de l'été qu'on a vues, plus une projection qu'on voulait faire sur l'église de Saint-Cornélie 3 jours par semaine, qui est bien sûr reportée à 2021, qui n'a pas eu lieu. Donc la boutique, les locations immobilières, effectivement, pour le Covid, l'Office bénéficie aussi d'une exonération de locations immobilières. Les honoraires, c'est tout ce qui est l'achat, les honoraires, les insertions pub, les honoraires sociales et fiscales. La suite derrière les annonces et insertions pour 118 000 euros avec la pub TV, donc je vous en ai parlé, un compte qui a coûté nettement moins cher que prévu, les publications pour 31 500 euros et les charges de personnel pour 417 000 euros. Je vous rappelle, il y a 8 permanents, 8 saisonniers et un stagiaire de 4 mois. Cette année, il y aura un peu moins de saisonniers, effectivement, déjà parce que, un, on n'a pas renouvelé le point à la maison des mégalithes. Et deux, on s'est organisé complètement différemment, puisque l'Office n'est rentré en activité qu'au mois de juin, alors que d'habitude, on démarrait avec des saisonnières beaucoup plus tôt. Sur la billetterie, il faut des recettes. Vous retrouvez effectivement les recettes, les subventions de la mairie, qui est toujours pour les animations et l'accueil promotion à la hauteur de 35 et de 21 000 euros. La taxe de séjour qui reprend les bases de réel de 2019, donc qui sera sans doute complètement différente. Les produits divers, c'est les participations des partenaires que je vous rappelle qu'on a fait gratuit pour cette année, donc qu'on n'aura pas non plus. Donc le budget, effectivement, est complètement différent. Sur la suite, vous avez les concessions et brevets qui vont venir. Concessions et brevets pour 9 000 euros. Installation et aménagement pour 6 000 euros. Matériel de transport, ça, c'est les dépenses d'investissement pour 4 000 euros, le matériel de bureau et d'informatique pour 5 000 euros. L'ensemble de ces dépenses ne seront pas non plus complètement réalisées, même si elles étaient déjà lancées avant la problématique du Covid. Pour la section investissement, on va retrouver effectivement derrière les recettes d'investissement le virement de la section de fonctionnement pour 1 553 euros et les opérations d'ordre à la hauteur de 31 429 euros. Voilà pour l'ensemble de l'activité de l'Office de tourisme pour l'année 2019 et le prévisionnel de 2020, même s'il sera complètement différent par rapport à ce qu'on vous a présenté.
Merci pour cette présentation très synthétique, Monsieur Jean. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ces rapports qui portent sur l'Office du tourisme? On va les... peut-être d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, les voter en une fois, s'il n'y a pas de soucis.
Oui, j'avais une question sur les subventions qu'on accorde à l'Office de tourisme. On a vu dans le DOB au précédent conseil municipal que la taxe de séjour était prévue à 350 000 euros. Ça a été rappelé dans une présentation aujourd'hui. Et on prévoit donc une subvention, si jamais la taxe de séjour était à moins de 510 000 euros, de maximum 25 000 euros, en plus d'une subvention exceptionnelle de 100 000 euros liée aux pertes de la Covid. Donc si la taxe de séjour est bien à 350 000 euros, plus les 25 000 euros, plus les 100 000 euros, ça ferait 475 000 euros. Voilà. Donc sur un prévisionnel de 510 000 euros, il y a une petite différence.
Alors, comme vous l'a dit l'autre jour le trésorier qui était présent, il y a une compensation qui est faite à la hauteur de 750 millions d'euros par l'État, qui devrait être votée d'ici septembre, y compris sur les recettes du casino, y compris sur les recettes de la taxe de séjour. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous dis, effectivement, le budget ayant été fait au mois de décembre ne correspond plus à la réalité aujourd'hui. C'est une présentation, il a été voté en CODIR. Il y aura un budget modificatif au mois de septembre quand on aura les données réelles, pour D'accord. éviter d'en faire plusieurs. Donc on va attendre le retour, puisqu'il est possible que sur la taxe de séjour, on ait une compensation normalement de l'État à la hauteur de 100%. Maintenant, tant qu'on ne l'a pas, on peut se méfier, on peut avoir des doutes derrière. Donc on va tout simplement attendre les retours. Comme je vous l'ai dit aussi l'autre jour, on était parti sur une base de 300 000 euros en prévision faible de la taxe de séjour. On avait fait un calcul avec les professionnels du tourisme sur le secteur par rapport au taux de remplissage. On pouvait estimer une valeur de 400 000 euros. Pour être, comme c'est imprévisionnel, on a coupé la poire en deux. On a pris la hauteur de 350 000 euros. Mais derrière, normalement, l'État devrait venir compenser. Et donc, s'il ne compense pas, la commune compensera.
Donc si on a une compensation de l'État, potentiellement, on pourrait être à plus de 510 000 euros. Donc il aurait été préférable que la subvention de 100 000 euros soit conditionnée au résultat de la taxe de séjour.
Alors, il y a deux choses. Là, je pense que, pourtant, je pensais avoir relativement bien expliqué. La subvention de 100 000 euros, c'est la décision de la commune de soutenir ses partenaires économiques. Pardon. À partir de là, c'est une adhésion à l'office de tourisme gratuite pour l'ensemble des partenaires économiques que vous avez vu tout à l'heure, qui étaient chiffrés et les pubs à la hauteur un peu plus de 100 000 euros. Pour compenser cette décision-là, la mairie a décidé de compenser cette demande à la hauteur de 100 000 euros. D'accord ? La taxe de séjour est un autre problème.
D'accord.
Ok ? Donc c'est pour ça qu'il sera difficile aujourd'hui de prévoir exactement ce qu'on aura. On a une évolution, pas toutes les semaines, mais quasiment tous les mois, des décisions de l'État. Donc on va attendre. Et entre les décisions et la réalité, je pense qu'on verra plus clair au mois de septembre. C'est pour ça qu'on a pris la décision, tout simplement, de réunir le CODIR au mois de septembre, et avec le sujet principal qui sera la modification du budget et de réactualiser derrière. Et là, on aura l'ensemble des sociopros.
D'accord.
Est-ce qu'on peut voter les rapports de 14 à 18 en une seule fois ou vous votez les, d'accord? Ok. Alors, est-ce que tu vas aussi au restaurant, Nadine, ce soir ou non? T'as autre chose. On va demander à Yann, il va aussi au restaurant. Il est déjà pris. Écoutez, je vous propose donc de passer au vote pour les rapports 14 à 18. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Yann, tu ne pourras pas dire que je fais tout pour que tu sois à l'heure au resto.
Sur votre respect, je ne vais probablement pas pouvoir y aller. J'attends en appel.
Écoute, désolé. J'imagine que c'est pour raisons professionnelles. Alors, on passe au rapport 19, subvention au yacht club pour le partenariat de 2020 et donc la convention qui va avec. Monsieur Lejean.
Tout à fait. Donc, le yacht club avait fait une demande de subvention, bien sûr, avec l'ensemble des régates qui étaient prévues sur l'année 2020 en temps normal. Résultat des courses, l'ensemble des régates n'a pas lieu, ce qui demandait 26 000 euros de subvention pour l'animation pour les régates. L'ensemble des régates a été abandonné, surtout les avant-saisons, style le Rocat. Donc ils ont gardé au programme deux régates, qui est le trophée Breskif qui aura lieu début septembre, et une nouvelle course de catamaran qui aura lieu fin août. Et donc il est proposé d'octroyer, et la commission a donné un avis favorable, d'octroyer 3 000 euros pour le trophée Breskif et 7 000 euros pour la nouvelle course de catamaran. À côté de ça, tous les ans, on donne une subvention pour les jeunes sportifs de haut niveau à la hauteur de 13 000 euros et l'école de sport à la hauteur de 8 000 euros pour les déplacements. Les jeunes sportifs de haut niveau, c'est pour financer leurs déplacements. Et l'école de sport, c'est pour financer les régates de l'ensemble de l'école de sport. Donc il est proposé aujourd'hui, effectivement, d'avoir une subvention globale de 31 000 euros pour le yacht club de Carnac.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention pour le yacht club qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir d'une avant-saison évidemment qui a été compliquée? Alors, c'est pas la seule activité qui souffre.
Mais... On a quand même, pour votre information, sur le yacht club, on a eu un petit rapport, il y a eu un comité de direction il y a 15 jours et on a eu un petit rapport, un point financier qui a eu lieu cette semaine. Aujourd'hui, et on retrouve la même dynamique sur le yacht club de Carnac qu'on peut retrouver dans l'ensemble de l'hôtellerie de plein air ou l'hôtellerie traditionnelle. Le mois de juillet se présente plutôt bien, voire très bien, puisque aujourd'hui, en termes de remplissage, ils sont quasiment à la hauteur de l'année dernière, Or, nous sommes que le 10 juillet. Donc, ils ont une marge et ils sont tous à penser que le mois de juillet va peut-être se terminer 2020 supérieur à 2019.
Tous à la voile, n'hésitez pas. Donc, on passe au vote sur cette subvention. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe aux subventions communales aux associations, cette fois-ci, monsieur Lejean.
Tout à fait.
Toujours pour 2020.
Voilà, donc vous avez le global. Alors, ce qu'il faut tous les énumérer, on les a vus hein, dans les différentes commissions au niveau des associations. On l'a vu à la commission finances. Grosso modo, on a répondu favorablement à l'ensemble des demandes, sachant qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de demande puisqu'ils ne pouvaient pas réaliser effectivement leur opération. Je vous rappelle une chose, il y a différentes subventions. Nous avons la subvention de fonctionnement aux associations, la subvention d'investissement aux associations et la subvention exceptionnelle qu'il peut avoir. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure un petit peu avec l'atelier musical, entre autres. Et j'ai eu pas de problème à ce niveau-là. Donc, il y a trois niveaux qu'on a mis en place qui datent pas de notre époque, puisque ça avait été mis en place à l'époque avec Daniel Joss, et qui est très bien, puisque effectivement, ça correspond à pouvoir flécher les subventions et l'argent public qui est bien identifié. Donc, sur différentes petites choses, on peut, mais on va le voir, puisque je vous rappelle que toutes les grosses subventions font partie d'une convention, donc elles sont gérées au cas par cas, comme on vient de voir le Yacht Club, hein, même si elles sont reprises effectivement dans le listing, là, mais elles vont être gérées au cas par cas. Avez-vous des questions ? Peut-être pour gagner du temps.
Madame Le Golvin.
Tu peux y aller, Yann.
Ouais, juste, vous l'avez évoqué par rapport à l'atelier musical, on a tous lu l'article qui est paru. Je veux savoir si vous aviez des infos un peu plus importantes.
Alors,
et notamment.
Pardon.
Et voilà. Alors, pour ce qui concerne l'atelier musical, effectivement, on est, l'atelier musical est dans une situation un petit peu compliquée. Il avait un modèle économique qui était déjà, pour ceux qui siègent au conseil municipal depuis longtemps, qui était un petit peu fragile. C'est-à-dire que régulièrement, tous les 2-3 ans, la commune de Carnac était obligée de venir au sauvetage de l'atelier musical, ce que nous faisions et ce que nous pourrions éventuellement faire dans le futur, parce que c'est une très belle association et. Personnellement, je pense qu'on serait beaucoup autour de cette table à être très chagrinés s'il devait disparaître. Et non seulement il y a une fragilité du modèle économique, mais qui est également, je dirais, doublée d'une fragilité de l'engagement, et on le constate dans beaucoup d'associations, hein, du bénévolat. Donc je ne sais pas si vous avez lu les articles dans la presse, mais voilà, le problème, c'est à la fois un problème financier, mais aussi un problème de raréfaction de l'engagement bénévole d'un certain nombre de personnes. Moi, je souhaite rendre hommage, pas seulement aux gens de l'atelier musical, mais à toutes les associations, parce que en fait, on se rend compte que quand les gens se retirent et n'acceptent pas de donner beaucoup de temps à ce type d'activité, elle ne peut pas survivre parce que elle ne peut pas être uniquement que mercantile ou avec forcément des résultats financiers positifs. Et donc, s'il n'y a plus ce bénévolat, l'association se retrouve en grande difficulté. Donc, on les a rencontrés, on sera présents à leur assemblée générale, on leur a dit qu'il ne s'agissait pas de les abandonner et qu'on souhaitait toujours les soutenir. Ceci dit, remettre de l'argent dans un modèle économique fragile et qui nous obligerait à en remettre dans 2 ans, c'est pas non plus forcément la bonne solution. Donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui, et on a des réunions qui sont prévues avec les communes à côté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Carnac payait pour beaucoup d'élèves qui venaient des communes, je dirais, de Plouarnel, de la Trinité-sur-Mer, voire de Plémel. Et ces communes ne participaient pas, comme Carnac, au fonctionnement de l'atelier musical. Donc ce qu'on voudrait, c'est évidemment mettre en œuvre, s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes de bénévolat, un financement qui ne viendrait pas uniquement que de Carnac, mais également au prorata du nombre d'élèves qui viennent d'autres communes, des communes qui sont concernés. Et donc, on a une réunion qui est bientôt, je dirais normalement, qui devrait bientôt se dérouler avec la Trinité-sur-Mer et Plouarnel, et éventuellement Plémel, pour essayer de mettre en place une solution, cette fois-ci pérenne. Encore une fois, l'argent ne fera pas tout. Il faut aussi que l'association ait envie de continuer et trouve un mode de fonctionnement et suffisamment de bénévoles pour que ça dure. Donc, voilà où on en est.
ça pourrait pas être du coup plutôt un atelier intercommunal ou quelque chose qui regroupe plutôt toutes les communes que
ça aussi c'est il y a à Auray un atelier musical hein, mais aujourd'hui je suis pas sûr que ce soit dans les compétences de l'intercommunalité d'une part deuxièmement je suis pas sûr que ce soit non plus dans la volonté de l'intercommunalité d'avoir
je me suis mal exprimé. Quand je parlais entre communes, entre nos communes, Carnac, Plouarnel, La Trinité, Plenel,
peut-être.
Sans parler de l'interco.
Ouais. Ah ben non, mais en fait, ce que je viens de te décrire, à savoir un cofinancement par les communes, ça aboutirait à peu près à ce que tu proposes. C'est-à-dire que ça deviendrait un peu intercommunal, puisque en fait, les communes paieraient pour les élèves qui sont issus de leur territoire. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière cette réunion entre les communes à côté. Encore une fois, moi, j'ai été ravi de payer pour à la limite qu'un petit Plouarnelois puisse s'initier à la musique grâce à Carnac, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas non plus totalement illogique que Plouarnel participe au coût. Donc voilà, c'est un peu ça, de faire participer les communes qui bénéficient aussi de ce service. Et ce n'est pas forcément uniquement aux contribuables carnacois d'assumer ce coût. Voilà.
Sur l'aspect financier, il y a des pistes qui devraient trouver des solutions. Après, c'est sur l'aspect bénévole qui est plus compliqué. Et là, il n'y a que... Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu dans la liste d'ailleurs de subventions qui vous est proposée. Quand vous regardez dans la subvention exceptionnelle pour l'atelier, là vous avez l'atelier musical à l'écran pour 4000 euros, mais en subvention exceptionnelle, vous avez l'atelier musical pour 8000 euros qui était effectivement le déficit des deux dernières années de l'atelier musical. Entre-temps, pareil, le Covid-19 est arrivé, a modifié les règles du jeu, entre autres une partie des charges les plus importantes pour l'atelier musical, qui est la rémunération des professeurs de musique, qui a été pris en charge par l'État, donc qui a soulagé aussi les finances de l'atelier musical. Donc sur la partie financière de 8 000 euros pour compenser le déficit, normalement, il ne devrait pas avoir lieu, besoin. Maintenant, il y avait aussi une autre problématique qui n'a jamais été provisionnée à l'atelier musical, ce sont les futurs départs en retraite, et qui a quand même un coût. Et qui n'a pas été provisionné et qu'il faudra aussi à un moment envisager de trouver une solution à cette problématique-là. Donc tout ça, on travaille dessus, mais tant qu'on n'a pas résolu la motivation des bénévoles, ça ne sert à rien de compenser financièrement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce... Madame Le Golvan, je croyais qu'il y avait avant que Monsieur Guimard vous coupe la parole, il y avait une question.
Micro.
C'est que nous, notre commission s'est réunie, c'est-à-dire tout ce qui était sport, scolaire, Monsieur Oudoua nous a réunis. Par contre, Yann, qui doit assister normalement à tout ce qui est association et culture, je lui ai dit de bien regarder. Mais visiblement, il n'y a pas eu de commission à se réunir, donc c'est peut-être un peu dommage quand même.
Il y a eu la commission finance quand même.
Oui, mais commission finance, mais quelque part, les subventions qu'on évoque là, c'est quand même... dans notre commission, ça a permis... au-delà des commissions finances, de discuter. Mais les collègues qui étaient là, franchement, ça a été très riche. Et d'ailleurs, là, pour le deuxième... Donc, dommage qu'il n'y ait pas eu de commission culture et associative. Ça, c'est un point. Deuxième chose, là, vous parliez de l'atelier musical. Donc, pendant cette commission, donc, il y a eu des échanges, je trouvais, assez riches. Et on était tous... à peu près, on pourrait dire, unanime, a trouvé que le système arrivait un peu au bout de ses limites. C'est-à-dire que les bénévoles, en effet, sont épuisés. Certains bénévoles doivent même faire des activités l'été et encore, je dirais que pour le Covid cette année, certains sont au repos. De réenclencher la machine, ça va être très difficile. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les associations doivent aller chercher de l'argent, surtout quand c'est derrière, il y a de la formation pour les enfants. Donc, on parle du Yacht Club, il y a beaucoup de formation pour les enfants, ça coûte. Il faut maintenant il n'y a plus de bénévoles qui donnent des cours, on voit bien, même dans certaines structures, plus personne ne fait de gratuité. Donc, quand on veut des éducateurs et de bons éducateurs pour avoir de bonnes écoles et être reconnus, donc ça coûte. Donc, je parle de l'école de foot, il y a le Yacht Club, il y a l'atelier musical, on avait cité encore, je ne sais plus, Monsieur Servet, parce que ça a été tellement. On a passé 3h30. Enfin, et on disait qu'on était un petit peu au bout du système, et peut-être qu'une. enfin, on va se réunir, je pense qu'on va en parler, mais une maison des associations, je rabâche, hein, mais la maison des associations, pour moi, permettait d'avoir une partie de réponse, parce qu'on peut avoir, et la mairie est là pour soutenir en fait tout ce tissu-là, parce que nous, il en va de l'éducation extrascolaire de nos enfants, mais d'avoir un bureau, enfin une comptable, une secrétaire, enfin quelqu'un aussi qui fasse autre chose que ce que les bénévoles, enfin moi je l'ai vécu, je le vis encore autrement, mais c'est beaucoup de temps. Et tout ça, la comptabilité, le secrétariat, je pense que d'avoir une aide, c'est pas la reconnaissance, c'est vraiment une aide technique, quoi. Enfin, ils peuvent plus tout faire. Les gens privilégient la famille, et c'est normal.
Pour la maison des associations, d'ailleurs, ça figure au programme de la mandature, hein. On va aménager l'ancienne trésorerie en maison des associations. Ma seule réserve, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas dans certains cas. Je prends l'exemple de l'école musicale. Elle a des locaux totalement gratuits à sa disposition, assez magnifiques. Enfin, voilà, dans la nouvelle médiathèque. Des conditions de travail qui, pour les professeurs, sont extraordinaires. Enfin, ils sont quasiment à demeure, hein, au premier étage de la médiathèque. Et pourtant, ils n'arrivent pas quand même à... Donc, oui, c'est vrai, hein, j'abonde tout à fait et je suis d'accord. En revanche, il faut aussi qu'il y ait du bénévolat au-delà du support. Et malheureusement, ça suffit pas pour sauver parfois les associations. On le constate, hein, le bénévolat, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué dans le monde associatif. Mais pour ce qui concerne la maison des associations, du moins l'emplacement qui est prévu, c'est au programme du mandat. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces rapports, ou on peut, Madame Le Golvan?
On va aborder le... Non, on l'aborde tout... Oui, on l'aborde après, donc c'est pas un problème.
C'est pour ça qu'il est séparé. Non, c'est pas pour ça qu'il est séparé, c'est parce que la subvention est plus importante. Mais donc on peut passer au vote pour les subventions de l'association. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, le Festival Terraquet, donc là, on peut très bien, je peux très
donc
bien prendre.
Sur le... Bah, prends-le, alors.
Écoutez, voilà. Donc, cette année, nous avons voulu être volontaristes, et ce sera probablement le premier épisode culturel qui va se produire, je dirais, post-confinement à Carnac. Et donc, on a souhaité, et on ne sait pas encore si c'est possible, mais... avoir ce festival qui rencontre un grand succès maintenu dans une version assez ambitieuse pour 2020 et donc avec un programme que vous découvrez. Il y aura 35 musiciens, 16 concerts symphoniques et donc à ce titre nous souhaitons que ce festival qui a rencontré son public puisse être pérenne à Carnac et en espérant qu'il puisse évidemment se maintenir et se dérouler donc à la fin du mois d'août jusqu'au début du septembre, jusqu'à la mi-septembre à peu près, avec beaucoup de concerts cette fois-ci à Saint-Cornélie, avec une proportion de concerts payants beaucoup plus importante que les autres années. Et donc à ce titre, nous vous proposons donc d'attribuer une subvention de 35 000 euros à l'association qui porte le festival.
Juste une Monsieur remarque, Guillaume. Tout ouais. Simple, c'est vraiment pas le premier événement, puisqu'en ce moment, on a le Festival de l'Orgue.
Oui, bien sûr. Non, mais je parlais d'un événement qui est concentré sur quelques jours. Le Festival de l'Orgue, il est sur la totalité de l'été. Donc, pas de questions?
Si. Concernant justement le festival de Terraquet, c'est vrai que c'est une des associations qui a le plus de subventions, donc 35 000 euros. En effet, c'est sur une durée de 18 jours, donc on voit le différentiel. Donc Yann faisait le parallèle avec l'association de Claude Nadeau, enfin pour l'orgue, et eux, c'est vrai que c'est sur tout l'été. Par contre, concernant le festival de Terraquet, au niveau des recettes, donc depuis l'année dernière, on demande. Et comme il n'y a pas eu de commission, on n'a pas pu demander pendant la commission les chiffres. Mais c'est vrai que la convention qui avait été signée, donc il y a des règles normalement. On doit avoir les statuts. Les statuts, on les a demandés. Alors, je peux aller consulter sans doute le dossier. Tout doit être dedans, j'imagine. D'accord. Donc, et vous avez... Ah, peut-être. Mais nous, on les a pas. Enfin, en conseil, ça, voilà, ça intéresse tout le monde aussi. Je veux dire, on verse 35 000 euros. On est exigeant, on parle de l'atelier.
Quelqu'un, c'est un libre consultation en mairie. Vous pouvez venir le consulter. Oui, si ça vous intéresse, allez-y.
Oui, je suis d'accord.
Mais ne préemptez pas l'intérêt d'autres conseillers municipaux. Si ça vous intéresse, il est à totale disposition parce que moi, je souhaite une totale transparence. Donc, si vous voulez, lundi, il est à votre disposition.
Ouais. Mais quand on vote un bordereau tout seul comme ça, ça pourrait être intéressant d'avoir voilà. Oui, mais en commission finance, je veux dire, c'est une association, donc il y a une commission. Je veux dire, on a une adjointe aux associations, ça me paraît légitime, et une adjointe à la culture, ça me paraît légitime qu'elle fasse au même titre que M. Oudois l'a fait, quoi. Voilà, c'est tout, c'est pas.
Madame Le Golvan, on commence juste, hein, les adjoints n'aient pas encore eu le temps d'entrer dans le mode habituel, c'est une chose. Après, je pense que vous allez vous réunir, et c'est vrai qu'on a un calendrier qui est un peu contraint cette année, hein, on le voit avec l'enchaînement des conseils municipaux. Je pense que ce sera, ça va être dans
d'où ma légitimité à demander à ce que les chiffres aient été donnés, c'est tout. Enfin, je ne pense pas que ce soit compliqué de recettes, dépenses. Enfin, après,
non mais pourquoi
je ne cherche pas à avoir raison, je vous dis juste ce qui aurait été souhaitable.
Ma réponse est ils sont à votre disposition, Mme Le Golo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lejean. Délégation service public pour l'exploitation du casino.
Alors, pareil, hein, là, le document est à votre disposition, donc on ne va pas le revoir dans toute sa longueur. Je vais juste faire un petit résumé sur les principaux événements qui est arrivé. Donc, je vous rappelle, hein, le groupe Circus, qui est un groupe belge, a repris 100% du capital du casino Circus de Carnac, puisqu'avant, il était associé avec un français. Ça s'appelait la SFBC, Société Française de Casino, je sais plus. Voilà. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est uniquement les Belges qui ont repris. Ils ont ouvert un cercle à Paris. Et l'année 2019, c'est aussi avéré par l'investissement qui a été fait sur l'extérieur pour avoir une dizaine de machines à sous qui sont en extérieur aujourd'hui au niveau du casino Circus. Le rapport est à votre disposition en termes de chiffres. On l'a discuté plusieurs fois. La DSP est en cours de renouvellement et renouvelée d'ailleurs. Donc c'est sur les mêmes bases et là-dessus, il n'y a rien de changé. Des questions?
Oui, ben, c'est quelque chose depuis 2008. Moi, j'entends parler de ça. Il y avait le fameux compte 471 où on avait pas loin d'un million d'euros. Non, au début, évidemment. Puis après, il y a eu des investissements de fait. Oui, oh là, mais il a été dépensé, cet argent, bien sûr. Ceci dit, il y a eu deux avenants de fait qui précisaient dans chaque avenant qu'on devait faire, donc l'argent devait normalement servir, ou en partie en tout cas, servir à faire des parkings autour du casino. On voit que ça n'a pas été fait, c'est depuis, enfin, donc tous les ans, on demande. Et là, quand on fait les... Enfin, J'ai lu, j'ai survolé, mais j'ai retenu le numéro de page, mais la page 31, pour ceux qui voudront lire, on voit bien que les parkings ne sont toujours pas dans les préoccupations, et que c'est que commercial. Donc, quid de tout ça?
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, puisque les parkings font partie du premier projet d'investissement immobilier, donc ils ne sont pas effectivement dans la structure d'exploitation, première des choses. C'est pour ça que vous ne le voyez peut-être pas, mais ça fait partie des choses qui devraient, on espère, pouvoir aboutir, pas sur 2020, puisque la saison, elle est engagée et le démarrage va être compliqué par rapport aux autorisations, mais le but, c'est qu'il se soit fait pour l'été 2021.
Alors, vous parlez de projet immobilier, vous pouvez préciser?
Là, c'est pas la même société qui détient la société d'exploitation et les murs, en fait.
D'accord, mais j'imagine que, puisque vous me dites que ça doit être fait, donc il serait fait où ces parkings?
Alors c'est un raménagement des parkings qu'il y a, entre autres de pouvoir faire passer les parkings en épi devant le casino et de récupérer sur le petit terrain derrière où il y a une OAP qui va être en construction, il y a une partie de terrain qui va être réservée pour faire du parking.
D'accord.
Donc voilà. Et ça sera le casino qui financera les parkings.
D'accord.
D'accord. Sur un parking qui appartiendra à la mairie.
D'accord. Donc, c'est une délégation que vous leur ferez aussi.
Ce n'est pas une délégation, c'est fait partie de la
DSP. Du domaine public, mais vous leur louez.
Mais c'est eux qui financent l'investissement.
Ils financent l'investissement et vous avez prévu donc un loyer, j'imagine, pour la...
Ah non, pas du tout. Ils font l'investissement, c'est un parking public comme n'importe qui peut se garer.
D'accord.
Très bien. Merci.
Donc là, on prend acte, hein, pas de vote sur le rapport du casino. Monsieur Lejean ayant terminé son marathon, c'est celui de Monsieur Houdois qui commence. Et donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, puisque en fait, en général, ce sont des rapports qu'on vote tous à l'unanimité, parce que personne n'a le cœur de ne pas accorder les subventions aux écoles et aux enfants. Ce que je vous propose, c'est de voter en un seul bloc les rapports qui vont donc de combien de 23, de 23 à 36, si vous en êtes d'accord, puisque enfin voilà, c'est, je pense que ça pose pas de problème. Hein, c'est des rapports qu'on vote systématiquement à l'unanimité, dont vous avez découvert et que ce sont vraiment des marronniers, c'est-à-dire que les modalités de calcul sont les mêmes chaque année, et donc ils portent sur l'ensemble des aides, subventions, participation au repas, aide aux familles, et donc je vais soulager Monsieur Houdois, à moins que Monsieur Houdois veuille faire un commentaire sur des changements, des...
Peut-être juste expliquer ce qui change par rapport à d'habitude, parce que si on déroule très rapidement, les subventions aux classes maternelles sont inchangées, élémentaires également. On a juste changé les activités pédagogiques scolaires, donc le bordereau 25, puisqu'en fait un certain nombre de sorties qui se font habituellement au mois de juin n'ont pas pu se faire en raison du Covid. Donc effectivement, on a une somme qui est inférieure à ce qui est voté habituellement, mais pour cette raison-là. Sinon, hormis cette spécificité-là, si pour le bordereau 28, on a juste aménagé, pour les mêmes raisons, le nombre de séances d'activités nautiques, puisque celles réalisées entre avril et le mois de juin n'ont pas pu être réalisées. On a par contre augmenté assez largement le montant attribué en fait au yacht club pour les activités nautiques à hauteur de 17 euros la demi-journée et 34 euros la journée. On était autour de 13 et quelques l'année dernière. Donc ça, c'est un soutien important au Yacht Club et puis à l'activité voile de manière générale. Je déroule un petit peu tout. Le reste est inchangé. La participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'école Saint-Michel. Alors pour ceux qui ne siégeaient pas au conseil municipal précédemment, donc le mode de calcul est un mode de calcul donc qui nous est imposé par l'État. On prend la somme des dépenses de l'école publique qu'on divise par le nombre d'élèves de l'école publique et qu'on remultiplie ensuite par le nombre d'élèves de l'école privée. Et c'est ça qui nous permet de déterminer le montant qui est alloué à l'école privée. Vous avez en dessous donc la participation à l'école privé Notre-Dame de la Trinité. On avait un partenariat spécifique avec la Trinité. On a souhaité y mettre un terme, mais on continue de payer pour le dernier élève carnacois scolarisé à la Trinité, donc avec un mode de calcul spécifique. Et puis donc le point sur les écoles extérieures. Donc là, le mode de calcul est un petit peu différent. Vous avez le détail en dessous. C'est notamment les enfants qui ont besoin d'aller à Auray, en général en raison d'un handicap. Et donc les frais de scolarité sont pris en charge par la commune de résidence. Les repas aux élèves carnacois, pas de changement. Petite explication sur la subvention exceptionnelle pour le séjour à la Clusaz, qui est uniquement pour les élèves de l'école Saint-Michel, puisque en raison du Covid, toujours, les enfants de l'école des Corrigans n'ont pas pu réaliser leur séjour au ski, contrairement aux enfants de l'école Saint-Michel. Donc cette année, on ne vote que pour les enfants de l'école Saint-Michel, mais il y aura un rattrapage sur l'année suivante pour qu'on respecte le principe d'équité qu'on a toujours vis-à-vis des deux écoles. L'aide aux familles carnacoises est inchangée et donc, avec votre permission, je vais enchaîner avec le bordereau peut-être supplémentaire qu'on nous a demandé de rajouter, puisque à la demande du trésorier, on nous a demandé de rajouter un bordereau supplémentaire qui concerne les élèves qui passent en CP et au collège, et à qui on offre respectivement des dictionnaires et des clés USB. Donc là, la demande du trésorier nous est arrivée après la commission, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu voir ça en commission. Et donc, le montant global attribué est pour 1 418,15 €.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ces rapports scolaires? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 37, alors c'est un petit peu indigeste, mais nous devons délibérer sur cette question, à la fois les déplacements des élus. Alors il y en a assez peu sur le mandat, hein, mais dans le cadre de la rénovation du musée, il y aura peut-être quelques déplacements pour quelques élus pour aller visiter d'autres infrastructures. Et donc vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble des dispositifs qui pourraient prendre en charge par la commune des frais, pas seulement de déplacement, mais également de formation. Je vous épargne la totalité de la lecture de ces descriptifs, hein, que ce soit pour les frais d'hébergement et de repas, de transport, les autres frais, également les formations. Et je vous invite encore une fois à tous vous renseigner sur les formations qui sont éligibles aux membres du conseil municipal et particulièrement les nouveaux conseillers municipaux. Il y a des formations très intéressantes, hein, sur les finances, sur beaucoup de choses. Et comme il y a un budget, je dirais, voté annuellement par la commune, il faut, si possible, l'utiliser parce que c'est toujours intéressant quand on est élu d'être le mieux formé possible. Donc en annexe, vous avez le montant des indemnités repas et également indemnités kilométriques que pourrait prendre en charge la commune dans le cadre de votre activité de conseiller municipaux, hein, et c'est valable pour la majorité municipale, mais également pour la minorité municipale. Et donc, une fois que nous aurons délibéré, eh bien, nous pourrons éventuellement rembourser ces frais, encore une fois, qui doivent être approuvés soit par une lettre de mission du maire, soit évidemment être en relation avec l'activité d'élu. Mais ça va sans le dire, évidemment. Donc si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas de questions sur ces dispositifs, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Pour ce qui concerne le rapport 38 sur la désignation des représentants pour le CIVU du centre de secours, nous avons donc deux représentants à désigner et nous vous proposons donc Monsieur Michel Durand et Monsieur Gérard Marc-Albert pour représenter la commune au sein du CIVU. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. On poursuit avec le rapport sur la société publique locale de l'Office du tourisme de la Baie de Quiberon, puisque c'est une des raisons pour lesquelles on a modifié l'agenda de ce conseil municipal, puisque Auray Quiberon Terre Atlantique nous a demandé de délibérer donc pour désigner les membres du conseil municipal destinés à siéger dans ce conseil d'administration qui est composé de 18 administrateurs. Et donc qui comporte deux représentants de Carnac. Et donc nous vous proposons donc de désigner Monsieur Pascal Lejean et Madame Nadine Drouet pour représenter la commune au conseil d'administration de la société publique locale Office du tourisme Baie de Quiberon, et Monsieur Lejean pour représenter la commune lors des assemblées générales de la société publique locale Office du tourisme Baie de Quiberon, donc qui ne manqueront pas de se réunir dans les semaines qui viennent après l'élection de la nouvelle équipe au sein de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des questions sur ces structures? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 40. Il s'agit du recensement de la population en 2021. Vous savez que pour les élus qui siègent depuis de nombreuses années, nous avons une obligation légale de procéder au recensement de la population tous les 5 ans, hein, pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et donc ce recensement sera réalisé à Carnac entre le 21 janvier et le 20 février 2021. On va recruter, comme à chaque fois, des agents qui recenseurs qui feront donc ce travail. Hein. C'est un travail de longue haleine, puisqu'il faut physiquement aller taper à chaque porte, même si on le fait de moins en moins. Et donc, pour mener à bien ces opérations de collecte, et contrairement aux directives de l'INSEE, eh bien, nous devons désigner par délibération donc un coordonnateur communal. Et je crois que... Non, Laurane ne s'est jamais occupée. Si, elle s'est déjà occupée une fois de ça, non ? Il me semble, ouais. Tout à fait exact, je m'en souviens. Et donc, comme c'était plutôt bien passé, ben, je vous propose de désigner Laurane Dréan, donc, qui est un agent communal, qui est au sein du service financier, comme coordinateur principal des opérations de recensement de la population pour 2021. J'imagine qu'il n'y a pas... De problèmes. Eh bien, écoutez, s'il y a unanimité, je vous remercie pour Laurane. On passe au rapport suivant. Donc là, c'est la mission locale du Pays d'Auray. Donc on doit désigner dans cette mission locale dont vous connaissez le rôle. Hein, il s'agit d'aider notamment l'emploi et l'emploi des jeunes au sein du Pays d'Auray. Nous devons désigner deux représentants. Donc un représentant conseiller communautaire au sein de ce conseil municipal. Et donc je pense que nous allons désigner Madame Katia Sculo si elle en est d'accord. Et ensuite, donc, une représentante conseillère municipale. Et là, compte tenu de, voilà, du rôle de Madame Robineau au sein du CCAS, eh bien, nous vous proposons de désigner Madame Sylvie Robineau dans cette fonction. Pas de questions, pas de vote contre, et donc pas unanimité. Nous en avons donc terminé avec ce conseil municipal. Il n'y a pas de questions diverses ni de questions orales. Néanmoins, je vais profiter de l'occasion pour répondre à une question de Madame Le Golvan qu'elle a posée lors du dernier conseil municipal. Et je lui avais dit que ça n'était pas encore tout à fait finalisé. Et donc, à vos crayons, puisque je vais vous donner la liste des conseillers délégués qui ont donc été nommés par arrêté du maire au cours des derniers jours. Donc, Monsieur Paul Chapelle est conseiller délégué aux relations avec l'intercommunalité, l'urbanisme territorial et les affaires juridiques. Madame Christine Desjardins, conseiller déléguée aux santé et handicap. Monsieur Jean-Luc Servet, conseiller délégué aux grands projets urbanistiques, et il a déjà commencé sa mission puisqu'il va piloter le projet de rénovation du musée. Madame Nadine Rouet, conseillère déléguée aux animations touristiques et à l'économie. Monsieur Christophe Richard, où est-il ? Il est là-bas, conseiller délégué au sport. Madame Marie-Pierre Gasser, conseiller délégué à la vie citoyenne, l'état civil, au cimetière, et on lui a rajouté la représentante de la correspondante défense pour la commune, pour l'instant, voilà. Et puis Monsieur Jean-Paul Cargosien, qui sera conseiller délégué à l'agriculture, à l'ostréiculture et à la ruralité, pour ce qui concerne la commune. Donc voilà la réponse à la question. Et je vois des huîtres et des crevettes. Il est l'heure d'aller au restaurant. Je vous souhaite tous un bon week-end, et on se retrouve dans quelques jours. Merci à tous.